Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il y a écrit et pourquoi j'ai intitulé mon message ce qui est écrit. Alors, je sais qu'il y a au moins un hébraïsant ici, parce que c'est de l'hébreu. Est-ce que vous avez une idée? Puisque vous savez le thème, à travers les chants qu'on a chantés, vous savez de quoi on va parler. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Ce sont les premiers mots de la Bible. Vous êtes habitués à ce que nous lisions un texte et que nous prenions le temps d'en comprendre le sens et d'en tirer des applications. Mais je vais m'y prendre autrement aujourd'hui pour aborder un point de la doctrine chrétienne. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit de la doctrine de la création. Et je ferai mention d'un certain nombre de textes bibliques, bien sûr, puisque lorsque nous parlons de doctrine, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et parmi tout ce que notre Dieu a créé, je reste fasciné, et on l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure aussi, je reste fasciné par les étoiles, les planètes, les galaxies, les supernovas, et j'en passe. Ouais, ça me fascine lorsque je vois ça. Enfin, on ne voit pas ça de si près, mais je sais que ces astres sont très loin de notre planète. Et cela m'émerveille en pensant à celui qui les a créés. Pour ma femme, et selon ses dires, elle ne se lassera jamais du spectacle qu'offre un coucher de soleil. C'est une photo de nos vacances, hein, mais avec des couleurs toujours différentes. Parfois du rose, du violet, de l'orange, du rouge. Et sans doute que vous diriez chacun un aspect de la création qui vous fascine particulièrement. Dans les premiers mots de la Bible, Dieu se révèle comme étant le créateur du ciel et de la terre. Et cette révélation influence nécessairement notre vision du monde. Parce qu'en effet, pour les athées, cela semble inconcevable qu'il y ait un Dieu créateur. Mais pour les croyants, cela fait toute la différence. Comprendre que Dieu est notre créateur répond en plus de cela à la question du sens de la vie. Si vous vous êtes déjà demandé un jour, pourquoi est-ce que j'existe? À quoi sert la vie? Eh bien, vous pouvez trouver la réponse dans la Bible, et en particulier dans l'affirmation que Dieu est celui qui nous a créés, avec tout l'univers qui nous entoure. Et je suis grandement redevable au cours de doctrine que j'ai reçu à l'Institut biblique de Nogent, et je m'en cache pas, ce que je vais dire aujourd'hui en particulier, je le dois au cours que j'ai suivi. Et j'en profite pour signaler simplement, c'est un moment de publicité, que vous avez sur la table qui se trouve dans le hall d'entrée des dépliants sur les formations qui vous sont proposées cette année. Donc vous pourrez y jeter un coup d'œil, vous avez des dépliants sur la table. Je sais qu'au moins l'une d'entre nous va en particulier suivre un certain nombre de cours durant cette année et c'est encourageant. Et ce n'est pas trop tard pour s'inscrire, même si la rentrée a déjà commencé. N'hésitez pas en tout cas à venir m'en parler. Tous ces dépliants sont sur la table dans le hall d'entrée. Cet après-midi, voyons six affirmations que je vais énoncer au fur et à mesure. Et ces six affirmations découlent d'une définition donnée par un théologien du XXe siècle, Louis Berkhof. Comment pourrait-on résumer la doctrine de la création? Eh bien, selon ses dires, la création, au sens strict du mot, peut être défini comme cet acte libre de Dieu par lequel il a produit au commencement tout l'univers visible et invisible à partir de rien, et ainsi lui a donné une existence distincte et pourtant toujours dépendante de lui. Je vous laisse quelques secondes pour relire cette définition. Donc nous allons nous appuyer sur cette définition pour évoquer cette doctrine de la création. La première affirmation est la suivante. La création est un acte du Dieu trinitaire. Quand je parle du Dieu trinitaire, vous savez de quoi je parle. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé harmonieusement à l'œuvre de la création. Et nous le lisons dès le début, Genèse 1, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors, Dieu, l'Esprit de Dieu, il n'est pas fait mention du Fils, mais lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, eh bien, nous parlons du Fils. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 16, « Ce Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Et comme vous le savez, Dieu crée par le moyen de la parole. Et à chaque fois que Dieu dit quelque chose, notamment dans Genèse 1, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que Dieu dit quelque chose dans Genèse 1, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe. La chose arrive, la chose existe. Un exemple, si on regarde le troisième verset de la Bible, « Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut ». Et dans cette citation aussi du psaume 33, nous voyons au verset 9, « Car il dit, il, Dieu, dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu crée par le moyen de sa parole. » Je prends un autre texte, et aujourd'hui on verra vraiment beaucoup de textes. Mais combien l'enseignement de la Bible est riche à ce niveau-là. Hébreux, chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi ?» Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et dans le Nouveau Testament, celui qui est appelé la parole de Dieu, et tout à l'heure Yoxa, ça fait mention de ce texte, n'est autre que Jésus, Dieu le Fils. Et effectivement, je vais relire ce passage que nous avons déjà lu, Jean chapitre 1, versets 1 à 3, au commencement, ce sont les mêmes mots que dans la Genèse. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Nous avons moins l'habitude de le dire, mais le Fils, en harmonie avec le Père et l'Esprit, a participé à toute la création. Tout a été créé par lui. Mais c'est vrai qu'on a moins l'habitude de le dire. Deuxième affirmation, la création est un acte libre de Dieu. Si nous disons que Dieu est libre, cela veut dire qu'il n'a pas senti l'obligation de créer le monde. Sinon, il ne serait pas libre de le faire. Cela montre au contraire que Dieu est entièrement souverain et maître de sa décision. Il fait clairement ce qu'il veut et il a décidé volontairement de créer l'univers et de nous créer. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, cette louange qui est adressée à Dieu, « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Si nous existons, c'est parce que Dieu le veut. L'acte de créer n'est pas un caprice de Dieu. Au contraire, la création nous permet de nous rendre compte à quel point il est puissant. Romains chapitre 1, verset 20. « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Non seulement Dieu a créé le monde, mais dans son amour et dans sa bonté, il en prend soin. Dieu est bon. Psaume 104, versets 27 et 28. Il compte sur toi tous ces êtres pour recevoir leur nourriture, chacun au moment opportun. Tu la leur donnes, ils la prennent, ta main s'ouvre et ils sont comblés de bonnes choses. Dieu prend soin de sa création. Et dans ce même psaume, l'acte de créer révèle combien Dieu est sage. Le verset 24, « Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse, la terre est pleine de tout ce que tu as réalisé. » Tu as tout fait avec sagesse. Dieu a donné un ordre aux choses et en même temps, il nous a donné la capacité de comprendre, la possibilité de comprendre le monde qu'il a créé. Et il y a énormément de choses encore à découvrir. Et comme les scientifiques l'ont découvert récemment, enfin récemment, en tout cas à partir de l'histoire de la science, mais jusqu'à maintenant, c'est que l'univers est minutieusement réglé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fine-tuning? Ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Merci. Effectivement, l'univers, et on le découvre de plus en plus, est minutieusement réglé. Il n'y a pas de doute que, notamment, si je fais référence à la conférence CFC qui aura lieu la semaine prochaine, que l'orateur en question pourra en parler beaucoup mieux que moi. Tout à l'heure, on fera une annonce là-dessus. Vous saurez de quoi je parle. Quand nous pensons au Dieu créateur en regardant tout ce qu'il a créé, nous ne pouvons qu'être émerveillés. Au millimètre près. Qui est semblable à notre Dieu? Et comment ne pas l'adorer? Je rajouterai une chose. Le monde a été créé par Dieu, cela signifie qu'il y a eu un temps où le monde n'existait pas. Si le monde a été créé par Dieu, c'est qu'il y a eu un temps où ce monde n'existait pas. Mais Dieu était déjà là. Puisque la création est un acte totalement libre de Dieu, eh bien nous disons que le monde est contingent. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme en philosophie. Ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ont suivi des cours de philosophie, contingent, c'est-à-dire le contraire de ce qui est nécessaire. En fait, pour le dire autrement, le monde aurait pu ne pas exister. Il n'était pas nécessaire. Dieu n'avait aucune obligation de le créer, puisqu'il est libre. Le monde n'était pas nécessaire, et cette vérité, je me permets de le dire, doit nous remettre à notre place en tant que créature. Nous devons notre existence à sa seule volonté. Vous êtes toujours avec moi? Troisième affirmation, Dieu a créé au commencement. Quand nous lisons le premier verset de la Bible, au commencement, Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous constatons que la création est bien un événement historique, puisqu'il y a eu un commencement. C'est un événement historique qui se situe au début du temps, même si nous n'en connaissons pas la date exacte, mais il y a eu un commencement. Et le temps tel que nous l'expérimentons aujourd'hui a démarré avec la création. Et avant la création, c'était le moment où Dieu vivait de toute éternité sans nous. En dehors de Dieu qui est éternel, tout est temporel et dépend de lui. Et d'ailleurs, la science tient le même discours en affirmant que le monde a eu un commencement. Alors c'est sûr que les estimations varient beaucoup, vacillent un petit peu entre 10 000 ans et 13 milliards d'années, mais on n'est pas là pour spéculer là-dessus. Mais la science affirme que le monde a eu un commencement. Et c'est au moins un des points où la Bible et la science sont d'accord. Quatrième affirmation, Dieu a créé à partir de rien. En latin, ex nihilo. Comme nous venons de le voir, avant la création, avant le commencement, rien ni personne n'existait à part Dieu lui-même. Donc Dieu a créé à partir de rien. Et cela veut dire deux choses. D'abord que Dieu n'a pas créé à partir d'une matière préexistante, puisqu'il n'y avait rien. Et deuxième chose, Dieu n'a pas créé à partir de sa propre nature. Il n'a pas utilisé une partie de lui-même pour créer quelque chose. Et plus précisément, Dieu a créé ex nihilo pour le premier acte créateur, le ciel et la terre. Et à partir de là, avec la matière existante, le reste a pu surgir. Si je prends simplement l'exemple de la création de l'homme, qu'est-ce qu'on constate ? Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec quelque chose que Dieu a créé, avec de la poussière du sol. Est-ce qu'on peut récapituler les quatre affirmations ? De la doctrine de la création. Premièrement, dites-moi, c'est vous qui parlez cette fois-ci. Voilà, donc la création est un acte du Dieu trinitaire. Deuxièmement, c'est un acte libre de la part de Dieu. Troisièmement, alors j'entends plusieurs choses en même temps. Plus distinctement, au commencement, Dieu a créé au commencement. Et puis quatrièmement, c'est ce qu'on vient de voir, Dieu a créé à partir de rien. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ? Je n'entends pas de oui, donc je ne sais pas. Hein. Cinquième affirmation, Dieu a créé tout l'univers visible et invisible. Je pense qu'aucun d'entre nous n'ose affirmer qu'il est né tout seul. Nous sommes tous issus de nos parents, qui sont eux-mêmes issus des leurs, et ainsi de suite, jusqu'au premier homme, Adam, qui a été créé par Dieu. Et souvent, quand nous évoquons ce sujet de la création, nous pensons à tout ce qui est visible, parce que c'est ce qu'on voit. Mais je voudrais m'attarder, juste maintenant, un peu plus sur la partie invisible de la création. Parce qu'il y a bien une partie invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu. La Bible nous apprend qu'il existe bien une partie du monde qui est invisible et que Dieu a créé. Si je reprends le verset de Colossiens chapitre 1, verset 16, « C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. » Et dans ce monde invisible, nous retrouvons entre autres les anges, qui sont au même titre que nous des créatures de Dieu. Et voici quelques informations à leur sujet que nous tirons de la parole de Dieu. D'abord, une définition, qu'est-ce que sont les anges ? Eh bien, d'après Hébreux 1, 14, des esprits aux diverses fonctions. Alors, bien sûr, néanmoins, ils peuvent se rendre visibles et même s'exprimer de manière audible. On peut penser notamment à cet épisode où des anges sont là pour sauver Lot, qui est à Sodome, dans Genèse chapitre 19, ces anges qui sont visibles et qui peuvent lui parler. Nous voyons que les anges peuvent également communiquer de la part de Dieu des messages à ceux qui sont au service de Dieu, et notamment, on le voit à plusieurs reprises, mais je mentionne ce texte dans Daniel chapitre 9, versets 21 et 22, où Daniel s'exprime en disant « J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, et nous le savons par d'autres textes qu'il s'agit d'un ange, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. » Donc ce sont aussi des porte-paroles. Et puis, voilà, je donne simplement quelques informations concernant ces anges. Alors, avant cela, peut-être. Et puis, également, ils ont parfois comme mission, comme dans l'histoire de Sodome et Gomorre, eh bien, d'exécuter les jugements de Dieu. Et à ce titre-là, eh bien, bien souvent, effectivement, ils vont servir pour exercer le jugement. Et bien que les anges soient supérieurs à nous en force et en puissance, l'Écriture nous met en garde contre le culte des anges, de vouloir rendre un culte aux anges. Et c'est ce que nous voyons dans ce moment décrit par l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. « Alors que je me prosternais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité, dont Jésus est le témoin. Adore Dieu. Ne fais pas cela, ne te prosterne pas devant moi qui suis un ange, mais adore Dieu. » Et effectivement, les anges ont un ministère particulier en faveur des chrétiens. Et si je reprends ce verset de Hébreux 1, chapitre 1, verset 14, « En effet, que sont les anges, des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. » Donc Dieu a créé le monde invisible et les anges en font partie. Sixième et dernière affirmation, les créatures sont distinctes et dépendantes de Dieu. La Bible présente ces deux réalités. D'un côté, un Dieu absolu qui ne dépend de personne et de l'autre, un monde réel et distinct de lui. Distinct dans le sens que le monde n'est pas Dieu, donc il y a une différence. Tout en dépendant de lui. L'univers entier se trouve dans une dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et c'est en particulier par rapport à Christ qu'il est dit, toujours dans Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, « Oui, par lui et pour lui tout a été créé, il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. » Tout subsiste en lui. Tout peut se tenir en place grâce à lui. Et dans le livre de Job, un certain Éliou exprime cette vérité à propos de Dieu. « Oui, s'il portait sur lui toute son attention, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient ensemble et l'homme retournerait aussi à la poussière. » Il suffit que Dieu ramène à lui le souffle de vie et il n'y a plus de vie. Donc tout dépend de lui. C'est lui qui nous maintient. Si nous croyons au Dieu créateur, cela implique que nous croyons aussi à la providence. La providence, c'est-à-dire l'activité par laquelle Dieu continue de s'occuper du monde en pourvoyant à ses besoins. Mais je parlerai une autre fois de la doctrine de la providence. Dans cette dernière partie, je voudrais vraiment m'attarder sur la création de l'homme. Créature à la fois distincte de Dieu et totalement dépendante de lui. D'abord, l'homme, créature distincte de Dieu. Et pourtant, l'homme a une place particulière. Dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 26 et 27, nous lisons « Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Dire que Dieu nous a créés à son image signifie que nous portons cette image en tant que représentants, en tant qu'ambassadeurs de Dieu. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que cela implique. Dans tout l'univers, nous sommes les seuls qui puissent dire « Si je suis sur terre, c'est pour représenter Dieu. » Même les anges dont j'ai parlé ne peuvent pas en dire autant. L'homme a donc une place particulière, privilégiée dans la création. Il est un être susceptible d'avoir cette relation privilégié avec Dieu, d'entrer en dialogue et d'être en communion avec son Créateur. Et c'est pourquoi l'être humain est doté d'une personnalité capable de choisir, d'aimer, de vouloir. Et à ce titre, eh bien, c'est une personne responsable de ses actes. Pour autant, et j'aimerais vraiment accentuer là-dessus, notre ressemblance à Dieu ne fait pas de nous des dieux. Et je me permets d'insister là-dessus, parce que dans certaines églises, c'est un message qui est prêché. Nous ne sommes pas des dieux. Et si un jour vous entendez le contraire, il faut fuir. Nous ne sommes pas des dieux. S'il est vrai que l'être humain a été déclaré bon au moment de sa création, eh bien sa désobéissance envers Dieu a tout gâché. Néanmoins, ce qui reste vraiment incroyable dans tout ça, c'est que malgré la chute, malgré la présence du péché dans le monde, cette image de Dieu demeure en l'homme. Nous continuons à être des représentants de Dieu sur terre. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans la Genèse, Dieu réclamera le sang à tout animal et à tout homme qui pourrait verser le sang. Et voyez la raison. Genèse chapitre 9, verset 6. « Qui verse le sang d'un humain par un humain aura son sang versé. » Pourquoi ? Car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Tout homme, toute femme a donc une valeur immense. Vous avez une valeur immense. Peut-être qu'on ne vous l'a pas souvent dit dans votre vie, mais vous avez une valeur immense. Les membres de votre famille ont une valeur immense. Vos amis et ceux qui ne le sont pas ont une valeur immense. Parce que tous ont été créés à l'image de Dieu. Évidemment qu'on a du mal à le croire ou à l'accepter pour certaines personnes. Certaines personnes, lorsqu'on pense à des criminels par exemple. Quoi, eux aussi ont une valeur immense ? Mais rappelons-nous que cette image a été gravement altérée par la chute. Et d'ailleurs, le réformateur Jean Calvin disait que ce qu'il en reste de cette image, c'est une horrible difformité, une caricature. L'homme, à cause de son péché, est devenu inhumain. Et c'est pour cela que, face aux atrocités que l'homme peut commettre sur cette terre, nous entendons parfois « Non mais, ce qu'il a fait là, c'est horrible, c'est pas humain du tout. » Et j'aime l'idée que le chrétien est appelé à devenir plus humain, à retrouver son humanité. Et puisque Dieu œuvre pour que ses enfants ressemblent toujours plus à Jésus, leur frère aîné, nous devons l'admettre, quand nous lisons les évangiles, qui est plus humain que Jésus de Nazareth ? Nous avons à retrouver notre humanité. Et voici notre assurance dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Et c'est un verset que nous avons déjà abordé quelques mois plus tôt. Oui, nous avons cette assurance que Dieu œuvre pour nous transformer à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous avons clairement besoin d'être restaurés dans cette image. L'homme est aussi un être dépendant du Créateur. Et donc j'aimerais parler de cela pour terminer. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. La seule relation qui réponde à nos besoins les plus profonds. Et depuis que l'homme s'est révolté contre Dieu, il connaît l'insatisfaction à cause de sa rupture volontaire avec Dieu. Et tout son être aspire à retrouver ce qui lui manque, et en réalité, ce qui lui manque, c'est cette communion avec celui qui l'a créé. Et vous connaissez peut-être cette phrase de saint Augustin, qu'il a écrit dans ses confessions, où il s'adresse au Seigneur en disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Nous avons été créés dépendants pour être avec Dieu et non pas pour vivre sans lui. Et alors que nous comprenons cela, nous saisissons le sens de la vie, qui est en lien avec celui qui nous a fait. Et il est donc tout à fait normal que nous soyons insatisfaits dans notre vie tant que nous sommes séparés de Dieu. C'est vrai, le chrétien peut aussi ressentir cette insatisfaction du fait qu'il n'est pas toujours en communion avec Dieu. Mais au moins, le chrétien peut affirmer qu'il a trouvé ce sens à sa vie, dans la relation renouée avec son Créateur. Et puisque l'homme était si important pour Dieu, parmi toutes les autres créatures, nous comprenons d'autant mieux pourquoi il était prêt à envoyer Jésus pour nous. Dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place pour nos péchés et pour ressusciter, de telle sorte que toutes les conditions ont été réunies pour que celles et ceux qui croient en lui soient réconciliés avec le Créateur. C'est ainsi que l'apôtre Paul l'exprime. Et je vous invite à écouter ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. « En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Verset 17, « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. » Récapitulons une dernière fois. Nous avons vu que le Dieu trinitaire est à l'origine de la création, que la création est un acte libre de la part de Dieu, qu'il y a effectivement eu un commencement à ce monde, que Dieu a tout créé à partir de rien, et que ce tout implique le monde visible comme le monde invisible. Et toutes les créatures, toute la création, sont à la fois distinctes et dépendantes de Dieu. Et dans tout l'univers, c'est l'homme qui porte l'image de Dieu. C'est l'homme que Dieu appelle à la réconciliation. Et tout cela revient à dire que nous avons été faits pour lui, que tout a été créé pour lui. Et si je reprends les paroles d'un chant que nous avons chanté tout à l'heure, le premier chant, infiniment grand, quand nous disons que pour moi tu as tout créé, dans un sens, je comprends que cela veut dire que Dieu nous a fait don de l'environnement où nous nous trouvons. Dieu nous a fait cadeau de la création pour que nous puissions y vivre. Mais dans un autre sens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour moi que Dieu a tout créé. Dieu n'a pas tout créé pour moi. Que lisons-nous dans l'Écriture? Et là, vous êtes habitués à ce verset maintenant. Colossiens 1, verset 16. « Car c'est en lui, en Christ, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Et lui, c'est Christ. Cela nous fait réfléchir, n'est-ce pas? C'est pour lui que tout a été créé. Pas pour nous. Prions ensemble. Nous sommes vraiment tout petits devant toi. Comme nous l'avons rappelé aujourd'hui, tu es le Créateur. Tu étais là dès le commencement et bien avant. Et quant à nous, nous avons un commencement, nous avons un début. Nous avons aussi une fin sur cette terre. Mais toi, tu es éternel. alors nous nous sentons forcément tout petits. Et nous voulons tellement te remercier parce que tu n'étais pas obligé de nous créer, mais tu l'as bien voulu. Et en plus de cela, dans ta grâce, tu nous as accordé la vie éternelle. Alors, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, oui, comment te dire merci ? Comment ne pas t'abandonner notre vie ? Quand nous comprenons tout cela, quand nous comprenons que nous avons une place de choix dans cette création, et que ton désir, qui continue de s'exprimer, est de vouloir offrir la réconciliation. Alors que c'est nous qui avons péché, alors que c'est nous qui t'avons offensé, mais tu offres la réconciliation en notre Seigneur Jésus. Et pour cela, Seigneur, nous voulons encore te dire merci et te demander que nous puissions prendre toujours conscience de qui nous sommes devant toi. Gloire à toi, Seigneur, parce que ce que nous avons pu dire aujourd'hui n'est qu'une petite partie de tout ce que tu nous révèles dans ta parole à ton sujet. Et nous voulons tellement encore te connaître et te laisser te révéler à nous. Oui, Seigneur, montre-nous qu'effectivement tu es Dieu et que nous ne sommes que des créatures. Mais merci de prendre soin de ta création. Merci de prendre soin de nous et de nous conduire sur le chemin de la vie par Jésus. Alors c'est avec reconnaissance que nous voulons continuer à te louer, que nous voulons continuer à reconnaître que oui, nous sommes faits pour toi. Nous avons été créés pour toi. Nous existons pour toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.